France Culture.
Le journal est présenté ce soir par Catherine Pétillon. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron durcit le ton envers Israël. En déplacement à Singapour, il appelle à nouveau à la reconnaissance d'un État palestinien. En réponse, Israël accuse le président français d'être en croisade contre l'État juif. Nous irons à Jérusalem. Pendant ce temps, l'ONU décrit Gaza comme l'endroit le plus affamé au monde. Sur place, les distributions alimentaires donnent lieu à des scènes de chaos. La mort du professeur Étienne-Émile Beaulieu, l'inventeur de la pilule abortive. Ce médecin et chercheur avait 98 ans. Et puis avec la cellule Investigation de Radio France, nous reviendrons sur les violences sexistes et sexuelles dans les écoles de cirque. C'est une enquête signée Claire Checaglini. Bâtir de nouvelles alliances basées sur le droit et refuser le deux poids deux mesures face au règne de la force et des superpuissances. Voilà l'appel lancé par Emmanuel Macron depuis Singapour à l'occasion du Shangri-La, le principal forum asiatique de défense et de sécurité. Un peu plus tôt dans la journée, le président français avait appelé à la reconnaissance d'un État palestinien sous condition en déclarant « il ne s'agit pas simplement d'un devoir moral, mais d'une exigence politique ». Cet après-midi, il a réaffirmé sa position. Le récit de Paul Barcelone, il suit pour nous la visite du chef de l'État à Singapour.
C'est devant un parterre de ministres de la Défense asiatique, de chefs d'État-major et de pontes du renseignement qu'Emmanuel Macron durcit encore le ton. « Si nous abandonnons Gaza et laissons faire Israël », prévient le président, « nous perdons toute crédibilité », message à la communauté internationale. Que la France presse de réagir, inquiète des remontées du terrain, de la situation humanitaire épouvantable à Gaza. Si Emmanuel Macron continue d'échanger quasi quotidiennement au téléphone avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, leur relation s'est tendue, voire dégradée. Le président refuse d'accréditer l'idée d'un double standard, d'un blanc-seing laissé à Israël. Il se dit prêt à prendre des sanctions contre l'État hébreu. Depuis Singapour, Emmanuel Macron a aussi fait un pas de plus vers la reconnaissance d'un État palestinien. Aux yeux du chef de l'État, pas tant une exigence politique qu'un devoir moral.
Israël n'a pas apprécié la prise de parole d'Emmanuel Macron sur Gaza. L'État hébreu accuse le président français d'être en croisade contre l'État juif. Le gouvernement israélien y a répondu de façon extrêmement virulente aujourd'hui. Le détail depuis Jérusalem avec Michel Paul de RFI pour France Culture.
C'est depuis Sanour, une colonie de peuplement du nord de la Cisjordanie, évacuée en 2005 et qui vient d'être recréée, qu'Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, envoie une réponse cinglante au président français.
C'est un message clair à Macron et à ses amis. Ils reconnaîtront un État palestinien sur le papier et nous construirons ici l'État juif israélien sur le terrain. Le papier sera jeté à la poubelle de l'histoire et l'État d'Israël prospérera et fleurira.
Israël ne cédera pas face aux menaces de sanctions, dit encore le ministre israélien. Et de son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères accuse Emmanuel Macron d'avoir lancé une croisade contre l'État juif après son appel à durcir la position à l'égard d'Israël si la situation humanitaire à Gaza ne s'améliorait pas. Il n'y a pas de blocus humanitaire, c'est un mensonge flagrant, peut-on lire dans un communiqué publié par le ministère qui poursuit. Au lieu de faire pression sur les terroristes djihadistes, Macron veut les récompenser en leur donnant un État palestinien. Et le texte s'achève par ces mots, il ne fait aucun doute que la fête nationale de cet État sera le 7 octobre.
Et aujourd'hui, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU redit, lui, qu'il considère Gaza comme, je cite, « l'endroit le plus affamé au monde où 100% de la population est menacée par la famine ». L'organisation dénonce les difficultés d'acheminement de l'aide dans l'enclave palestinienne. Israël ne laisse pas entrer les camions, qu'on compte goutte. L'approvisionnement organisé ces derniers jours par la Gaza Humanitarian Foundation, pilotée par les États-Unis et Israël, ne fonctionne pas, tranche le responsable onusien. Et sur place, la situation est tout simplement insoutenable. Bardis, 33 ans, nous envoie ce message depuis Rafah.
On meurt de faim. Ça fait deux jours que je n'ai rien bu ni mangé. Pas une goutte d'eau. On ne trouve plus de pain. Mes enfants hurlent pour me réclamer juste un bout de pain. Les gens voient ce qui nous arrive, mais personne ne fait rien. Dans cette guerre, on se sacrifie pour nos enfants. Il y a des gens blessés qui crient famine. Il n'y a plus d'organisation humanitaire. Les gens se battent pour avoir à manger. Ils ont fait de nous des animaux. Pendant les quelques distributions alimentaires, c'est l'anarchie, le chaos total. Ils tabassent les gens qui viennent chercher à manger.
Un témoignage recueilli par Noé Pignède. Vladimir Poutine ne se rendra pas à Istanbul. Le Kremlin a écarté la proposition de rencontre proposée par la Turquie entre le président russe Volodymyr Zelensky et Donald Trump sous l'égide de son président Recep Tayyip Erdogan. Moscou a en revanche proposé d'envoyer une délégation lundi pour de nouveau pourparler avec les Ukrainiens après un premier rendez-vous mi-mai peu fructueux. De son côté, Kiev n'a pas encore confirmé sa venue. Les Ukrainiens attendent que Vladimir Poutine envoie un mémorandum qu'il a dit avoir préparé et qui doit exposer ses conditions pour la paix. Des conditions qui, selon l'Ukraine, risquent d'être irréalistes. C'est une première dans la région. Les Émirats arabes unis, l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde, se dotent d'une loi pour lutter contre le changement climatique. Entrée en vigueur aujourd'hui, elle impose entre autres aux entreprises de mesurer et de baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, une avancée saluée par l'ONG Greenpeace. L'État pétrolier du Golfe, qui développe sa production d'hydrocarbures tout en investissant massivement dans les énergies renouvelables, vise à la neutralité carbone en 2050. À noter que cet objectif ne prend pas en compte les émissions produites par le pétrole exporté et brûlés hors des frontières du pays. Et aux États-Unis, la Cour suprême valide une nouvelle partie de la politique de Donald Trump. Elle vient d'autoriser le président américain à révoquer temporairement le statut légal de plus de 500 000 immigrés. L'administration Trump avait mis fin en mars à un programme spécial institué sous Joe Biden, autorisant les ressortissants du Venezuela, de Cuba, du Nicaragua et de Haïti à résider aux États-Unis pour 2 ans en raison de la situation des droits humains dans leurs pays respectifs. Il était l'inventeur de la pilule abortive. Le professeur Étienne-Émile Beaulieu est décédé aujourd'hui à l'âge de 98 ans. Ce médecin et chercheur était mondialement connu pour la portée scientifique, médicale et sociétale aussi de ses travaux sur le rôle des hormones stéroïdes. Jeanne Stémar, bonsoir.
Bonsoir Catherine, bonsoir à toutes et à tous.
Alors la découverte de sa vie, c'est la molécule RU486 à l'origine justement de la pilule abortive.
Tout commence lorsqu'il est invité à venir travailler aux États-Unis. Il rencontre alors le père de la pilule contraceptive qui l'encourage à travailler sur les hormones sexuelles. De retour en France, Étienne-Émile Beaulieu découvre en 1982 une anti-hormone qui s'oppose à l'action de la progestérone essentielle à l'implantation de l'œuf dans l'utérus. Cette pilule abortive devient une alternative médicamenteuse à l'avortement chirurgical, une solution plus sûre, moins invasive et moins onéreuse pour les millions de femmes à travers le monde. Mais cette révolution, le reste du monde a du mal à l'accepter. Étienne-Émile Beaulieu est traîné devant les tribunaux, diabolisé par les puissantes ligues américaines anti-avortement, qui l'accusent d'avoir inventé une pilule de la mort. En France, des affiches anti-pilules abortives le comparent à Mengele, médecin nazi qui menait des expériences sur les prisonniers d'Auschwitz. La violence de cette campagne, il en parlait au micro de la méthode scientifique de France Culture en 2017.
Le contrôle de la gestation a entraîné de très grandes controverses qui étaient abusivement morales. Bien entendu, rien n'est plus important que de considérer ce qui va se passer quand on attend ou qu'on ne veut pas attendre un enfant, sans pour autant s'envoyer des injures, des inventions qui n'ont pas de sens. Franchement, alors que j'ai été assez attaqué, y compris physiquement, je n'ai jamais été impressionné.
En janvier dernier, à l'occasion des 50 ans de la loi Veil légalisant l'IVG, Étienne-Émile Beaulieu affirmait encore au journal Le Monde « Je soutiendrai toujours les mouvements qui luttent pour le droit des femmes à empêcher une grossesse non désirée ». À 98 ans, il travaillait encore sur la dépression et la maladie d'Alzheimer dans son laboratoire du Kremlin Bicêtre au sud de Paris.
Merci Jeanne Stémar. Le groupe La France Insoumise, NFP et des députés écologistes ont déposé cet après-midi une motion de censure contre le gouvernement, comme ils l'avaient annoncé. Cela fait suite au rejet de la loi Duplomb en début de semaine et au renvoi directement en commission mixte paritaire, sans discussion dans l'hémicycle, de ce texte très contesté, destiné à lever les entraves au métier d'agriculteur. Nous appelons à répondre aux 49.3 parlementaires et à bloquer la loi pesticides en censurant le gouvernement de François Bayrou, explique LFI. Cette motion de censure devrait être examinée à l'Assemblée nationale mercredi prochain. Il y a eu l'onde de choc provoquée par l'affaire Betarame, mais d'autres établissements publics sont concernés par les violences sexistes et sexuelles, et notamment les écoles de cirque. Bonsoir, bonjour Claire Checaglini.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Pour la cellule investigation de Radio France, vous avez enquêté sur ce mouvement MeToo dans l'univers du cirque, avec un exemple qui a intéressé la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire.
Oui, celui du lycée Bayen à Châlons-en-Champagne. Pendant plusieurs années, Pascal Vey, un professeur de français et des arts du cirque, a été accusé de violer et d'agresser sexuellement des élèves. Fin 2023, il se suicide au moment où la justice commence à s'intéresser à lui. Dans cette affaire, plusieurs alertes ont été ignorées, notamment celle d'un infirmier scolaire qui s'exprime aujourd'hui pour la première fois.
Dans des promos de cirque qui font 15 à 20 élèves, pas plus. Par exemple, dans la classe de première, j'avais 10 élèves touchés par des problèmes de tics, de toc, des crises d'angoisse paroxystiques, des choses vraiment extrêmement violentes, d'origine psychogène. Il m'explique que Monsieur V cristallise tout ce mal-être dans ses promotions. J'avais écrit au rectorat parce que la situation était vraiment extrême.
Dans ce courrier, l'infirmier détaille l'état de santé des élèves, mais il ne mentionne pas le nom de l'enseignant. En revanche, il le donne à la proviseure.
Et cette affaire, Claire, n'est pas isolée.
Effectivement, Rachel Vadou est formatrice en prévention des violences sexistes et sexuelles et elle intervient dans les écoles de cirque.
Vous avez en fait un secteur qui est très propice aux violences sexistes et sexuelles, peut-être plus qu'ailleurs. Ça commence avec la relation enseignant-élève qui, par nature, est asymétrique. Évidemment, le contact physique est au cœur de la pratique.
Et ces pratiques sont parfois l'objet de dérives. Nous avons joint trois anciennes élèves du lycée Berthelot à Châtellerault, de promotions différentes, et qui ne se connaissent pas et qui accusent leur ex-professeur d'acrobatie, de harcèlement, de chantage aux photos dénudées et d'attouchement. Exemple avec cette jeune femme qui vient tout juste de faire une déposition à la police.
Quand il m'étirait à la fin des cours, il a commencé à me mettre la main entre les jambes, donc j'ai des cannes d'équilibre. Et il venait mettre son pénis contre mes doigts. On était en plein milieu de la salle. Il y avait des gens autour, mais personne ne voyait.
Quant au professeur en question, voilà ce qu'il répond.
Je suis quelqu'un qui est un amoureux de l'apprentissage, qui est très engagé, peut-être trop, mais dans un contexte de discipline où le tactile peut être une méthode d'apprentissage, notamment par rapport aux équilibres sur les mains, donc forcément plus exposé.
Autre témoignage, celui de Célia Sanson de la promotion 2012.
Il me disait, je sais que je te plais, mais il faut rien dire à personne. Est-ce que c'est pour moi que tu as montré ta culotte? Autour de moi, les autres élèves me disaient, il est trop puissant, de toute façon, tu ne pourras rien. Dont certaines filles qui étaient concernées aussi. Et d'un autre côté, il me descendait devant tout le monde. C'est trop grosse pour la performance. Je suis partie dans la vie adulte avec une image de moi totalement détruite et j'ai continué à avoir peur, en fait.
Un témoignage là encore contesté par l'enseignant qui a été l'objet d'accusations similaires dans une deuxième école, cette fois à Bruxelles, établissement qu'il a dû quitter. Face à ces situations, la Fédération française des écoles de cirque a lancé un plan de formation contre les violences sexistes et sexuelles.
Merci Claire Checaglini de la cellule Investigation de Radio France. Marine Le Pen vient d'achever sa visite en Nouvelle-Calédonie. La patronne des députés du Rassemblement national affirme vouloir participer aux futures consultations sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Rencontre prévue mi-juin à l'Élysée, après un an après les violences insurrectionnelles qu'a connues l'archipel. Au-delà des morts et des dégâts, estimés à 2 milliards d'euros, ces violences entre indépendantistes et loyalistes ont laissé des traces plus profondes dans la société. Arrive-t-il encore à vivre ensemble ? Écoutez le reportage de nos envoyés spéciaux, Pierrick Bonneau et Marc Garvenès.
Dans le quartier indépendantiste de Montravel, au nord de Nouméa, les tôles calcinées d'une usine complètement détruite il y a un an s'entassent toujours au bord de la route. Un groupe de Kanaks observe les va-et-vient des forces de l'ordre encore très présentes dans le quartier.
C'est de la provocation, hein. C'est rien d'autre. Hein. Ils n'ont pas besoin de venir. Regardez, ils sont combien ? Un, deux, trois fois encore.
Marcel Toyon connaît bien la police. Le 10 mai 2024, il est arrêté puis incarcéré pour avoir participé au soulèvement des indépendantistes. Ce Kanak est aujourd'hui sous bracelet électronique.
Le bracelet, il est là. Hop.
Il suffit, selon lui, d'une étincelle pour que la violence reparte.
C'est sûr que les jeunes, ils sont prêts à redescendre sur le terrain, ah oui, à aller au front. Hein. Ils sont prêts à mourir pour leur pays, pas contre les Français, hein, en fait contre l'État colonial.
Pourtant, les Français, justement, terme employé pour désigner les non-Kanaks, se souviennent avoir été pris pour cible l'an dernier. Gilles est photographe à Nouméa et il n'a toujours pas digéré.
Il y a des endroits où je ne vais plus et où je vais mettre, à mon avis, un peu de temps à aller. Mais oui, j'ai un peu de mal à me dire que je vais recôtoyer l'intégralité de la Calédonie comme je le faisais avant les émeutes. ça me ramène trop aux émeutes, en fait, hein, d'avoir vu cette population mettre à feu et à sang le pays. Moi, très régulièrement, dans la rue, il y a des Mélanésiens, des Kanaks qui hurlent « Enculé blanc, rentrez chez vous, c'est chez nous ici ».
Certains Européens se sont même organisés depuis en groupe de voisins vigilants. C'est le nom qu'ils se sont donné pour être prêts en cas de nouvelles violences. Clément vit dans un quartier huppé de Nouméa.
On est maintenant tous connectés les uns aux autres. Et le jour où il y a un truc qui dérape, en 30 secondes, tout le monde est prévenu. Et on sait tous ce qu'il faut qu'on fasse. Et un tel doit emmener sa voiture pourrie à l'entrée du quartier. Et une telle doit préparer plusieurs kilos de riz pour commencer à préparer le repas des gens qui vont venir sans avoir mangé, sans rien avoir préparé. On est prêt, quoi.
Prêt et armé, menace ce chef d'entreprise qui n'hésite pas à parler d'un climat de guerre civile en Nouvelle-Calédonie.
La marque de vêtements Naf-Naf, à nouveau placée en redressement judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce de Bobigny. 600 emplois sont menacés. C'est la troisième procédure de la sorte pour l'enseigne de prêt-à-porter, déjà rachetée en juin dernier. Le repreneur turc dit vouloir présenter un plan de redressement et Naf-Naf bénéficie d'une période d'observation de 6 mois. Sa situation sera réexaminée lors d'une audience le 23 juillet prochain. Les ventes de tabac ont chuté de plus de 11% l'an dernier en France, chiffre publié aujourd'hui par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. La baisse est continue depuis plusieurs années. Et pour préserver davantage encore les enfants du tabac, la ministre de la Santé a annoncé, à compter du 1er juillet, l'interdiction de fumer sur les plages, dans les parcs et jardins publics ou encore près des écoles. Des interdictions de ce type, cela existe déjà ailleurs, en Europe. En Suède, ces politiques de lutte anti-tabac ambitieuses sont en passe de faire du Royaume scandinave le premier pays sans tabac avec moins de 5% de fumeurs. À Stockholm, le reportage d'Ottilia Ferret.
Péonir, 70 ans, allume une cigarette dans la rue. Une image pas banale au pays des non-fumeurs qui, depuis 2019, ont interdiction de fumer aux terrasses des bars et restaurants, près des aires de jeu, des arrêts de bus ou devant n'importe quelle entrée d'un bâtiment public.
Il faut fumer en cachette, aux toilettes. Ils font vraiment la chasse aux fumeurs ici. C'est très bizarre qu'on ne puisse pas fumer dehors.
Mais la norme en Suède, c'est plutôt de penser comme Felicia, assise en terrasse.
On réagit directement si quelqu'un fume. Moi, c'est sûr que je vais dire quelque chose. C'est évident que c'est mauvais pour la santé, pour l'environnement. Ce phénomène de fumer, c'est cool, c'est fini.
Dans ce café, Ashtan, le serveur, explique que les seules personnes qui allument parfois une cigarette en terrasse sont des touristes pas familiers avec la loi suédoise.
Si ça arrive, je leur explique qu'il faut aller 10 mètres plus loin.
Pour Hélène Juana, secrétaire générale de l'association A Non-Smoking Generation, c'est indéniable, les politiques anti-tabac ont eu des effets immédiats en Suède.
On a fait en sorte que ça devienne difficile de fumer et du coup, les gens ont arrêté. Fumer, c'est un phénomène social, donc si on supprime cette image dans la société, ça empêche aussi les gens de commencer à fumer.
Par contre, 15% des Suédois consomment du snus, à savoir les sachets de nicotine à placer sur les gencives. La Suède est même l'unique pays de l'Union européenne autorisé à en vendre.
Et on termine ce journal avec cette découverte au Guatemala, celle d'une cité maya disparue, vieille de 2800 ans. Ce site urbanisé a été baptisé Los Abuelos en raison de la découverte de 2 sculptures qui représentent un couple ancestral et pourraient être liées à d'anciennes pratiques rituelles. Pour comprendre la portée de cette découverte, Pierre Roper a joint l'archéologue Chloé Andrieux, chercheuse au CNRS et autrice du livre « Les Mayas n'ont pas disparu ».
Ce qui est intéressant, en fait, c'est la datation, c'est pas le fait d'une découverte d'une cité perdue, même si c'est souvent présenté comme ça. Ce serait daté entre 800 et 500 avant Jésus-Christ, ce qui fait que ça peut être mis en corrélation avec une autre grande découverte qui avait fait du bruit, qui est celle d'Aguada Fénix, qui est justement un grand centre cérémoniel qui datait d'entre 1000 et 800 avant Jésus-Christ. Donc tout ça converge pour montrer qu'on a déjà un urbanisme avec des structures très monumentales, même pour les époques assez anciennes de l'ère Maya. Ça confirme que ces organisations hiérarchisées, elles commencent plus tôt encore que prévu, quoi. Mais ce qu'on a sinon, c'est des figures de jumeaux. Là, ils se couplent, donc ça donne l'impression d'un homme et une femme. C'est ces figures double que l'on retrouve ensuite dans des mythes, des espèces de jumeaux fondateurs. Mais c'est vrai que si elles sont effectivement datées de 500 à 300 avant, c'est nouveau. Et tout ça, finalement, nous donne une meilleure idée de ces sociétés du préclassique moyen qui sont encore mal connues. puisque jusqu'à récemment, la recherche s'est focalisée sur l'époque dite classique, l'apogée de la civilisation maya entre 250 et 950 après Jésus-Christ. Je soupçonne, parce que c'est souvent le cas, c'est des villes entières, que tout ne date pas du même moment. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est le caractère assez ancien de l'urbanisme. Mais après, voilà, ça a été passé à une certaine moulinette de communication pour en faire la découverte d'une cité maya perdue. Et ça marche à chaque fois.
Un mot de la météo de demain. Après le temps estival de ce vendredi, retour des orages demain entre l'Île-de-France et le nord du pays. Le temps sera chaud et lourd sur les trois quarts du pays. Les températures, elles, restent très élevées, dépassant les 30 degrés dans certaines villes comme Lyon et Toulouse.